Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, vous le connaissez, c'est le podcast bimensuel qui vous parle de jeux vidéo sur PC, console et même tablette des fois. De temps en temps, ça arrive. Mais on est surtout sur les machines sérieuses, on va dire. En tout cas, c'est l'émission qui vous permet d'avoir toutes les informations sur l'actu du jeu vidéo et du gaming avec un poil d'analyse, sans avoir besoin d'écumer tous les blogs et toutes les centaines de news de la Terre. C'est le but en tout cas, j'espère qu'on va y arriver. Je pensais pas qu'il y aurait énormément de news pour cet épisode. Finalement, il y en a eu quelques-unes, puisqu'on est en tout début d'année, on sort de la période de Noël. D'ailleurs, bonne année et joyeux Noël. Bon, peut-être pas, ça fait tard, mais bonne année 2015 à tous. Pour célébrer le début de l'année 2015, on va, en plus de nos news habituelles, vous parler des jeux auxquels on a joué à Noël et des jeux auxquels pour lesquels vous pouvez être impatient pour l'année 2015, peut-être. On vous parlera de ça en deuxième partie d'émission. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai un jeune homme de qualité, à savoir Jean-Noël du podcast « Papa, à quoi tu joues ?» qui va nous apporter un regard un peu plus familial sur cette émission et la manière de jouer. Comment ça va, Jean, depuis le premier épisode ?
Ça va bien, bonne année à toi. J'ai pris 2 kilos pendant les fêtes, mais sinon ça va.
Comme tout le monde, ou presque. Très bien, bon, et j'ai cru comprendre que tu avais un petit peu joué aussi, tu avais eu le temps de t'adonner à ton loisir pervers. Je parle des jeux vidéo, bien sûr.
si, exactement, j'ai eu 5 jours tout seul à la maison, donc j'ai joué comme un petit goré.
Très très bien. Bon, avant de se lancer dans nos jeux de Noël et puis les jeux de 2015, il y a quand même quelques news. Vous avez peut-être été victime de l'attaque sur les réseaux de jeux vidéo, en particulier PlayStation et Xbox Live pendant Noël. Et on a vu que chez Sony, les problèmes ont duré beaucoup plus longtemps que chez Microsoft, avec des excuses, même pas des excuses, des explications extrêmement mal communiquées, on pourrait dire même un manque total de communication de la part de Sony, qui était, à mon sens, assez inacceptable. Si vous voulez tous les détails et que vous parlez anglais, j'ai fait un long laïus dessus dans la version anglaise de cette émission qui s'appelle Pixels, qui est disponible sur frenchspin.com. J'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas reparler de tout ça ici. Mais vous pouvez aller écouter ça sur Pixels, et entre parenthèses, on a aussi évoqué les problèmes de communication de Xbox, de la Xbox One et de Microsoft, et les raisons pour lesquelles, à mon sens, c'était un gros problème pour l'industrie, ce qui s'était passé avec le lancement de la Xbox One. Donc, je vous invite à aller écouter ça si vous voulez un petit peu de regard éclairé sur ces problèmes qui ont eu lieu cette année, enfin il y a quelques jours sur PlayStation et il y a un an et demi sur Xbox One. À mon sens, c'est quelque chose qui est important à discuter, d'autant plus que ça change énormément la manière dont on approche les jeux numériques sur cette génération de consoles. Bref, après les problèmes du PlayStation Network, Sony a décidé qu'ils allaient donner 5 jours de plus au PS Plus, l'abonnement PS Plus pour les gens qui en avaient été victimes, et une réduction sur une facture numérique, sur une facture pour des jeux achetés en numérique, une réduction de 10% qui arrivera dans le courant du mois de janvier. Est-ce que pour toi c'est une réponse appropriée ? camarade.
c'est un peu léger parce que c'est pas la première fois que Sony a ce genre de soucis. C'était déjà arrivé il y a quelques années. Ils avaient été beaucoup plus généreux pour le coup. Du dédommagement, il me semble qu'on avait eu un mois de PS Plus offert avec avec un jeu et puis un ou deux jeux.
Oui, c'est, disons que pour être parfaitement clair, à l'époque, les problèmes du PlayStation Network avaient duré, je sais plus, 6 semaines, un truc comme ça. On pouvait pas, il était totalement inaccessible, donc c'était pas tout à fait la même chose.
Alors. Oui et non, parce que le service network de l'époque proposait pas autant de fonctionnalités, n'était pas, à mon sens, autant indispensable à la PS3 qu'elle l'est à la PS4.
C'est vrai, et effectivement, il y a des jeux qui nécessitent le PSN et le PS Plus pour pouvoir fonctionner. Moi, je dirais que pour moi, c'est le strict, strict minimum. Et étant donné que c'était la période de Noël où tout le monde avait sa nouvelle console à laquelle il voulait jouer, qui était super neuve et tout, et que ça a duré beaucoup plus longtemps chez Sony que chez Microsoft, pour des raisons qu'ils n'ont pas clarifiées d'ailleurs, et qui, à mon sens, n'étaient pas dues aux problèmes d'attaque de DDoS dont ils ont été victimes au début, je pense que c'est vraiment le strict minimum et que c'est un petit peu décevant. Ils ont l'air avares alors qu'ils devraient avoir l'air généreux. Donc c'est un petit peu dommage, d'autant plus que cette réduction de 10% sur les jeux numériques, généralement les jeux numériques sont plus chers que les jeux en vente en physique. Sur Amazon ou chez d'autres boutiques, on peut trouver des jeux déjà, les gros AAA qui étaient sortis il y a 6 semaines, on peut déjà les trouver à 20-30% moins chers. Du coup, même avec ces 10% de réduction, au final, Sony se fait quand même de l'argent. Donc ils nous donnent la possibilité de leur donner plus d'argent suite à ce hack. Bon, moi je trouve ça un petit peu. Bon,
non, mais il faut vraiment qu'ils revoient leur système de sécurité parce que.
Bon, là, disons que.
Avec ça, avec le Sony Entertainment aussi.
Mais tu sais,
ça commence à faire beaucoup, je trouve.
Oui, mais c'est des amalgames faciles. Sony Pictures, le hack de Sony Film n'a rien à voir. Enfin, la société, c'est une société complètement différente. Il y a le nom Sony dessus, mais bon.
Est-ce que derrière, il n'y a pas la même philosophie vis-à-vis de la sécurité?
Ça, je pense que c'est deux sociétés complètement différentes, mais c'est sûr que ça n'arrange pas leur image, ça c'est certain. Bon, par contre, un truc que moi j'ai trouvé pas mal, qui vient d'être annoncé hier, c'est l'arrivée d'un abonnement pour le PlayStation Now. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est que le PlayStation Now, c'est un service qui permet de faire du streaming de jeux. C'est-à-dire qu'au lieu de télécharger un jeu et d'y jouer sur votre console locale, dans votre salon, vous allez lancer un jeu sur les serveurs de Sony. Et vous allez en streamer la vidéo, et vous, quand vous faites une commande à votre machine, à votre pad, cette commande va être envoyée au serveur de Sony qui va vous renvoyer la vidéo. Alors évidemment, il y a, 150 millisecondes de décalage ou 100 millisecondes, ou parfois un peu moins, ça dépend de votre connexion. Et donc, c'est pas adapté à tous les jeux qui ont besoin d'avoir un millimètre de précision, ça peut pas être tout à fait adapté. Mais généralement, ça fonctionne plutôt bien et jusqu'à maintenant, il n'y avait que des systèmes de location où vous payez quelques dollars pour louer un jeu un jour, 30 jours,
oui,
etc.
C'était énorme.
Et
c'était énorme.
C'était très très cher, t'as raison. Et là, ils ont annoncé l'arrivée d'un service qui donnait accès à tous les jeux en illimité. Enfin, attention, tous les jeux qui sont disponibles sur ce service en illimité pour 20$ par mois ou 45$ pour 3 mois. Ça veut dire 15$ par mois en gros si on s'abonne pour plus qu'un mois. Alors, c'est surtout des jeux PS3. Il n'y a pas tous les jeux, mais il y en a une centaine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce service, Jean ?
Moi, je trouve ça vachement bien à la condition qu'on ait le temps de jouer. parce que c'est vrai que quand tu regardes par rapport au prix que tu peux payer, que ce soit 20 ou 15 dollars par mois, si tu es un vrai joueur qui joue vraiment beaucoup, du coup, c'est une super bonne affaire. Enfin, à l'heure actuelle, pas forcément, parce que c'est sans titre PS3, comme tu l'as dit, mais à terme, l'offre devrait être pléthorique. Et du coup, je pense que là, pour le coup, pour ce type de joueur-là, c'est un vrai bon plan. Après, personnellement, je pense que ça va être un gouffre financier si je me mets là-dedans.
Ouais, pour toi, effectivement, qu'il n'y a pas autant de temps pour jouer, voilà. Ça peut ne pas être aussi intéressant. Bon, disons que c'est un bon début. Moi, j'attends de voir ce que va faire la concurrence. Évidemment, Microsoft, hein, c'est les premiers vers qui on va se tourner pour voir ce qu'ils vont faire. Ça ne va pas arriver tout de suite, mais ça arrivera peut-être un jour, comme on va en parler dans quelques temps. Mais c'est très encourageant, je dirais. Le prix... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un ensemble avec le PlayStation Plus qui soit un petit peu moins cher si on prend à l'année, par exemple. Genre, je ne sais pas, que le PS Now revienne à 10$ ou un truc comme ça. Et évidemment, qu'il y ait plus de jeux. Pour le moment, c'est que des jeux PS3. Il y en a une centaine, ce qui n'est pas énorme. Mais imaginez qu'ils augmentent le catalogue, qu'on arrive à quelques centaines de jeux PS3 et qu'ils incluent la PS Vita ou ce genre de choses, franchement, ça pourrait devenir assez intéressant, un abonnement aux jeux vidéo comme Netflix ou comme Spotify. Alors évidemment, sur Spotify et Netflix, il y a plus de choses, il y a des choses plus récentes, mais vous pourrez aller regarder le catalogue des jeux. Évidemment, il y a les gros jeux Sony, il n'y a pas tous les gros jeux de tous les éditeurs, mais c'est un début. Donc, je pense que ça pourra donner quelque chose et c'est très encourageant. Un système d'abonnement au jeu.
C'est une offre de lancement. Mais la question que je me posais aussi, c'est est-ce que tu dois avoir un abonnement PS Plus pour avoir PS Now ?
Non, c'est deux abonnements séparés, d'après ce que je comprends.
Donc, parce que du coup, ça risque de faire du tort au PS Plus.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, le PS Plus, c'est pour pouvoir jouer en ligne, en gros. Et ça apporte d'autres services du genre vos jeux qui sont offerts, entre guillemets, gratuitement. Tant que vous êtes abonné au PS Plus, il y a deux jeux par mois, généralement. On en avait parlé le mois dernier. C'est deux offres différentes. À terme, je pense qu'il y aura une offre couplée, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficilement lisible. Peut-être qu'ils vont devoir communiquer là-dessus. Mais pour le moment, le PS Now, on ne l'a pas précisé, c'est aux États-Unis uniquement. Donc, c'est vraiment au stade d'expérimentation. Ils y vont lentement, ce qui est plutôt important parce que c'est un service qui demande énormément d'infrastructures réseau. Et il ne faut pas qu'ils lancent ça trop fort, trop vite pour se planter encore une fois, quoi. Donc, bon. Voilà pour Sony. Non, c'est pas tout pour Sony. On arrive à Microsoft dans pas longtemps, mais il y a aussi une annonce. On en a l'habitude, après les périodes de Noël, on a les chiffres de vente qui sont annoncés. Sony est le premier à dégainer avec des chiffres de vente qui atteignent 18,5 millions de PlayStation 4 vendus dans le monde. Donc, c'est des chiffres dans le monde au total. Et c'est un chiffre qui est assez impressionnant parce que, comme le dit GameCult, il y a c'est deux fois plus que le nombre de PS3 vendus en un an. Alors évidemment, la PS3 avait eu d'énormes problèmes à ses débuts, donc c'est pas forcément une comparaison flatteuse, mais c'est aussi deux fois plus, presque autant que la Wii avait vendu en un an. Et là, oui, on se souvient que c'était un succès énorme. Donc voilà, c'est des chiffres plutôt impressionnants. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que on a 80 millions de jeux vendus, ce qui fait un taux d'attachement de plus de 4 jeux par console. Alors, ça inclut les ventes numériques, hein, mais 4 jeux par console, c'est beaucoup. En tout cas, c'est pas peu. Et quand on discutait du prix des jeux les semaines précédentes, je pense que... Bon, je veux pas relancer ce débat-là, mais en tout cas, les gens achètent, quoi. Donc, voilà, bons chiffres pour Sony, quoi.
Ouais, je pense que Sony, sur la PS4, a été super malin au niveau du timing des annonces qu'ils ont fait pour donner l'eau à la bouche aux gens, pour justement que le rythme de vente... ne baisse pas. Et à coup de Morpheus, à coup de PlayStation Now, on voit le service aussi évoluer au fil du temps. Et je pense que une de leurs stratégies marketing, c'est justement d'avoir un attrait constant pour la PS4.
C'est vrai qu'ils ont bien timé leurs choses, à ce niveau-là, ils ont bien géré. Une des remarques qu'on me fait sur Twitter depuis que j'ai envoyé cette news il y a quelques heures, c'est « Ah, mais c'est des ventes sur du vent, c'est que des promesses, sur la PlayStation, il n'y a rien encore et ça arrivera peut-être plus tard. » Bon, il y a beaucoup de gens qui, je pense, sont plutôt fans de Microsoft parmi ceux qui disent ça. Mais en même temps, c'est pas totalement faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jeux absolument incroyables et merveilleux sur ces consoles next-gen. Pour moi, c'est à peu près aussi vrai sur Xbox One que sur PlayStation. On a du Infamous sur PlayStation, là où on a du... le jeu qui
Sunset Overdrive.
Voilà, merci. Sunset Overdrive sur Xbox. Il y a des jeux de course comme Forza sur Xbox. Il y a quand même des trucs sur PlayStation aussi, comme Drive Club, même s'il marche pas très bien, etc., etc. Donc, et puis surtout, les promesses sont très importantes. Le Morpheus, c'est une chose qui excite beaucoup de gens. Moi, c'est pas le cas, mais bon. Mais il y a surtout les jeux de Sony qui sont. Si on veut acheter une seule console next gen, on va pas l'acheter pour ce qu'il y a tout de suite sur notre console. On va l'acheter aussi pour ce qui va arriver plus tard, c'est évident. Donc, ça me semble un petit peu malhonnête de dire « Ah, mais c'est que sur des promesses ». Bah oui, les promesses, ça compte. Et elles comptent aussi sur Xbox One, évidemment. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ce qui a joué aussi, en plus de la qualité de la console de Sony, c'est les problèmes qu'il y a eu avec la console de Microsoft, et notamment un prix trop élevé à la base, avec un Kinect inclus, qui n'intéressait pas grand monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
Ouais, c'est pour ça que je parlais de stratégie marketing, parce que la bataille avait déjà commencé même avant les ventes, où chacun se jaugeait et se surveillait le prix de l'autre pour faire une annonce deux jours après.
C'est vrai. Et d'ailleurs, si vous pensez que j'ai un amour partial pour Sony, je vous renvoie vers le podcast anglophone Pixels, où j'ai fait donc ce déballage des annonces de Microsoft, où justement j'explique à quel point Sony profite de la situation en faisant faire du surplace à nos droits numériques et même en faisant presque du reculon par rapport à ce qu'aurait pu faire Microsoft s'il ne s'était pas planté lamentablement dans leur communication. Donc non, je pense qu'il y a des deux côtés des problèmes et des erreurs et des grandes qualités. Donc l'un dans l'autre, je trouve que les deux consoles sont d'excellente qualité. Microsoft, justement, Microsoft a fait quelques changements à ses kits de développement ces derniers mois et ils auraient libéré un peu plus de puissance sur les 8 cœurs du processeur de leur console. Ils ont libéré de la puissance du 7e cœur. À l'origine, les développeurs ne pouvaient en utiliser que 6, avec d'autres cœurs réservés à des opérations du système. Et là, ils ont libéré, comme on s'en doutait, une partie du 7e cœur qui était à l'origine réservée au Kinect. Et certaines fonctionnalités ne sont plus disponibles quand les développeurs utilisent cette puissance supplémentaire. Mais par contre, ça permet aux développeurs d'avoir des jeux plus performants et notamment d'avoir des taux de rafraîchissement plus élevé que sur PlayStation 4 dans certains jeux, sans doute grâce à ces petites modifications. C'est pas quelque chose d'incroyable ou de très surprenant, mais c'est à noter puisque ça a été confirmé justement il y a quelques jours.
Oui, mais pourquoi maintenant ? Que maintenant ?
Bon, c'est oui, ça. Bah parce qu'ils ont décidé d'abandonner le Kinect il y a un moment et puis d'abandonner. Je dis beaucoup, mais de laisser la possibilité aux gens de ne pas utiliser le Kinect il y a quelques mois, le temps d'adapter le kit de développement, puis le temps qu'il arrive entre les mains des développeurs, et puis le temps qu'il l'implémente, ça a pris à peu près un an, quoi.
Ouais.
Et Microsoft a posté des annonces pour des projets secrets, des annonces des offres d'emploi, pour des projets secrets où ils disent on va essayer beaucoup de choses très vite, on va se planter très vite sur certaines choses et il faudra continuer à évoluer, à faire des choses intéressantes, ce qui est une approche qui pour moi est bonne. Il faut essayer des choses, il ne faut pas avoir peur de se planter et c'est comme ça que des choses intéressantes peuvent arriver. Donc on peut imaginer qu'il y aura des choses étonnantes qui vont arriver chez Microsoft dans les années à venir. Et évidemment, on avait entendu parler du fait qu'ils travaillent sur un casque de réalité virtuelle, comme à peu près tout le monde dans l'industrie, quoi.
Ouais, mais c'est chouette comme postulat de départ. Et oui, moi, j'ai pas peur de voir Microsoft se planter sur quelque chose tant qu'ils le font pas de manière grandiloquente comme ils l'ont fait avec Kinect. Faire des petits projets comme ça et dire voilà, on va tester ça. Et oui. Alors, si j'avais un pronostic à faire, ça serait un genre d'hybride entre Kinect et effectivement un casque de réalité virtuelle, ce qui pourrait être très chouette ou absolument abominable selon la philosophie avec laquelle il développe.
Oui. Oui, il y a des choses effectivement qui pourraient être intéressantes. Moi, comme on le disait, j'aimerais bien voir un service de streaming de jeux vidéo où j'imagine qu'ils travaillent dessus, surtout avec leurs énormes serveurs Microsoft Azure qu'ils vantent depuis des mois. Mais il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes aussi. Et puis le propre de ce genre de projet, c'est justement qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc... Deux petites news rapides, justement, dans les projets un petit peu bizarres, il y a le Sentry Eye de SteelSeries, qui est un développeur, un fabricant de matériel, le Sentry Eye Tracker, qui est un outil qui se colle sur le moniteur de votre PC, en bas, et qui traque la position de votre œil. C'est des technologies qui existent depuis longtemps pour d'autres usages, notamment pour les handicapés, mais là, qui pourraient être appliquées à des utilisations du type... Alors, il parle de deux utilisations. D'une part, la possibilité de traquer les mouvements des yeux des pro-gamers pour voir vraiment comment ils font pour être aussi rapides et aussi bons. Et de l'autre côté, pour contrôler certains éléments de vos jeux avec vos yeux. Pourquoi pas ? Ça pourrait, si ça se développe, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant.
Ouais, alors j'ai testé il y a une bonne paire d'années un système comme ça dans un musée, c'était une installation artistique interactive et tout ça. Mmh. C'est hyper déroutant parce que ton œil en fait donc tu le contrôles mais tu le contrôles pas forcément tout le temps, t'as pas une pleine conscience des mouvements de ton œil.
Oui.
Et te rendre compte de ça quand on te montre ton œil, par exemple pour le FPS, quand tu vises avec ton œil, du coup, bon, là, ouais, ça pourrait bien marcher, mais ton œil, il fait toujours des mouvements involontaires et du coup, quand on te renvoie ça, c'est très très bizarre comme sensation.
Ouais.
Donc, moi, je demande à voir. Je suis sur un FPS, ouais, mais il parlait de TPS aussi, et sur un TPS, j'ai un peu de mal.
Oui. C'est sûr que ça serait certainement bizarre de voir son œil qui part dans tous les sens. Oui, je suis d'accord. Ça serait intéressant. Ouais. Et puis un petit peu perturbant en tout cas. Ouais. Peut-être que sur certaines pages web où il y a des pubs qui s'affichent spéciales, là aussi, ça serait intéressant de voir ce que fait notre œil sans notre conscience. Mmh. Bon, dernière petite news d'une autre technologie intéressante et beaucoup plus concrète, c'est la possibilité pour Tekken 7 de résoudre un problème qu'ont les joueurs de jeux de combat depuis des années, un problème insoluble qui posait d'immenses soucis dans nos habitudes de jeu, c'est le fait qu'on ne peut pas choisir le côté où on joue. Eh bien, ils sont en train, chez Namco Bandai, de tester une fonctionnalité qui vous permettrait, pour les parties en ligne ou là où on a deux écrans, de choisir le côté où on joue. Donc, évidemment, ça afficherait de l'autre côté pour l'autre personne, hein, mais tous les deux pourraient jouer du côté droit et tous les deux pourraient jouer du côté gauche, si vous le souhaitez. Et donc, ça affiche le bon côté pour l'autre joueur. Donc c'était juste un petit truc comme ça marrant, ouais. Un petit peu étonnant. Si vous êtes des joueurs de jeux de combat, vous comprendrez le pourquoi du comment.
Ouais, je pense que c'est une idée de frustrés, de gens qui quand on marre d'entendre, oui, c'est parce que je suis du mauvais côté de l'écran, c'est pour ça que j'ai perdu.
Ouais, exactement. Bon, écoutez, c'est tout pour les news de cet épisode. On va donc passer à la courte et rapide description de nos jeux de Noël. Et puis, on passera aux jeux de 2015 après ça. Pour les jeux de Noël, en fait, c'est pas les jeux de Jean Noël, hein, c'est les jeux de... On te l'a jamais fait, celle-là. Hein. C'est la première fois.
Ah, jamais. Alors là, jamais.
Je voulais en parler. Je voulais pas faire les jeux de l'année, en fait, parce que l'émission a commencé il y a 2 mois à peine. Et puis, je me sens pas encore assez... j'ai pas joué à assez de jeux de cette année. On peut jamais jouer à tout, hein. Mais j'ai pas joué à assez de jeux de cette année pour faire... les jeux de... enfin, pour faire un récapitulatif crédible. Donc, je vais juste parler, je voulais juste qu'on parle des jeux qu'on a eu cette période de Noël, les jeux qui nous ont plu, moins plu, sans doute des jeux qui sont sortis un petit peu avant, ce qu'on en a pensé, notre expérience et tout ça. Et puis, l'année prochaine, on fera un vrai jeu de l'année, comme tout le monde le fait, pour tous les jeux qui seront sortis. Jean, écoute, à toi l'honneur, est-ce que tu peux nous parler des jeux qui t'ont plu ou pas plu de ce que t'as fait là pendant ces quelques jours de Noël?
Ouais, alors est-ce que tu veux qu'on en fasse un chacun notre tour ou on balance notre liste?
Si tu veux, on peut faire un chacun notre tour, rapido. En plus, j'imagine qu'il y en aura qui seront, auxquels on aura joué tous les deux, donc voilà. C'est peut-être plus cohérent de faire comme ça.
Je vais... commencer avec un jeu pas trop important mais qui nous a bien fait marrer pendant les fêtes. J'avais ramené mon ordi dans ma famille et du coup on s'est bien marré là-dessus. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, je pense que c'est sorti il y a un petit moment, mais c'est Surgeon Simulator.
Ah oui, effectivement.
qui est un
simulateur
jeu,
de chirurgien.
Exactement. Et alors, simulateur, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, mais ça fait passer des soirées vraiment mémorables, phénoménales. On se passe l'ordi.
Je crois qu'il est sorti en 2013, je crois. Mais...
D'accord. Ouais.
Mais vas-y, vas-y. Donc.
Ouais, alors, pour peu qu'on ait un petit peu pris l'apéro avant et tout ça, ça rajoute au truc. Donc, c'est un jeu de simulation de chirurgie avec un gameplay abominable. Mais franchement, abominable, on a une main et avec la souris, on peut la faire tourner, on peut la lever, la descendre. Et avec 4 touches du clavier, on ferme avec 5 touches du clavier, on ferme les 5 doigts indépendamment les uns des autres. Et du coup, c'est pas précis. Et pour réussir une opération chirurgicale, on peut faire une transplantation cardiaque en enlevant les poumons, c'est pas un problème. pour remplacer un cœur, il faut juste. Tu enlèves le cœur et l'autre, tu le poses. Et ça y est. T'as fini et ça te dit c'est bon, l'opération s'est bien déroulée, il devrait survivre. Donc, c'est assez drôle. Enfin, en soirée comme ça, se faire une petite opération et se faire tourner l'écran, ça fait passer un bon moment.
D'accord. Bon, c'est une sorte de docteur Maboule moderne, quoi.
Voilà, oui, tout à fait, tout à
d'accord.
fait.
D'accord. Bon, ça a l'air marrant. Moi, j'y ai pas joué à celui-là, même si je l'ai sur ma liste Steam. Je l'ai eu, je sais plus quand, je l'avais acheté dans un bundle ou un truc comme ça. Par contre, j'ai aussi joué à un jeu qui est assez marrant en famille, je pense, mais dans le sens plus avec les enfants. C'est Captain Toad, qui est sorti un tout petit peu après Noël, mais qui était disponible sur Amazon un petit peu avant. C'est un jeu où on joue Toad, c'est un jeu Nintendo qui est sur Wii U uniquement, qui est pas très cher, qui coûte une trentaine d'euros à peu près, peut-être un tout petit peu plus, dans lequel on joue donc Toad qui doit résoudre des petits puzzles de perspective, c'est-à-dire qu'on a des niveaux tout petits autour desquels on peut tourner pour découvrir comment faire arriver Toad jusqu'à l'étoile et en chemin attraper des gemmes en plus pour compléter le niveau à 100% et il y a des petites conditions en plus. Donc c'est un jeu très très simple dans le concept qui est pas hyper facile en fait en pratique mais qui est tellement mignon comme sait le faire Nintendo qui franchement il m'a bien plu pour un prix raisonnable. C'est un très bon jeu auquel on peut jouer avec ses enfants, je pense. C'est pas pour les tout tout petits mais bon, ça peut les faire marrer quand même. Parce qu'en fait, les contrôles sont... il faut pouvoir tourner la caméra, déplacer le bestiau. À mon avis, c'est pas pour les enfants qui commencent à jouer, mais c'est vraiment tout à fait possible de jouer avec les enfants. Et il m'a vraiment plu. C'est tellement mignon, c'est tellement Nintendo. C'est un bon jeu au bon prix, avec un bon gameplay. Donc, voilà, c'était Captain Toad.
Je l'avais testé à Japan Expo et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir de 8-10 ans, c'est vraiment chouette.
Ouais. Vas-y, à ton tour.
Alors, à mon tour, donc, dans le même genre familial, pour passer une bonne soirée, sur téléphone, donc sur iOS et... sur Android, il y a Bounden, B-O-U-N-D-E-N. C'est un jeu de danse, mais pas un jeu de danse comme on a l'habitude d'en voir où il faut faire danser un bonhomme. En fait, on a chacun un bout de l'écran. Il faut garder son pouce sur le bout de l'écran. Et en fait, ça marche comme un niveau à bulle.
Mmh.
Et donc, selon l'orientation, il faut garder sa bulle au milieu de l'écran. Et au rythme de la musique, eh ben, du coup, chacun va orienter le téléphone et pour que la bulle reste au milieu et aller sur le chemin qui nous est indiqué. Et du coup, on danse, quoi. on danse, on fait des pas chassés, mais c'est vraiment super intuitif et c'est vraiment super rigolo. J'ai fait ça avec mon beau-frère, on s'est éclaté, tout le monde s'est foutu de nous, mais... voilà, on s'est vraiment éclaté. Parfois c'est timé, parfois c'est pas timé, c'est plus ou moins difficile selon les niveaux, mais c'est vraiment un très très chouette moment à passer, pareil avec vos amis, avec votre famille. Donc c'est drôle et en même temps c'est assez reposant, c'est chouette, et on se moque évidemment beaucoup de ceux qui le font.
Évidemment.
Donc c'est 3,59€ sur App Store et Play Store.
D'accord. Je signale aux auditeurs qu'il y a des petites interruptions dans les conversations Skype, mais c'est le cas pour tout le monde. J'ai l'impression qu'avec leur dernière update, ils ont mis un petit peu le foutoir dans leur code de réseau et ça fait des interruptions dans tous les podcasts que j'ai écoutés ces derniers temps. Donc,
merci Microsoft. Hein.
Oui, non, vraiment. et en plus, on ne peut plus enregistrer directement sur Skype. Donc, je me demande si je ne vais pas passer à d'autres moyens d'enregistrement dans les semaines à venir. Bref. Autre jeu auquel j'ai joué, là on part à l'opposé total de Captain Toad, c'est Grand Theft Auto 5. Et Grand Theft Auto 5, c'est un jeu auquel j'avais pas joué sur la génération précédente, donc je l'ai pris, ou je me le suis fait offert plutôt sur PlayStation 4, et j'avoue que j'ai découvert, ou redécouvert, parce que j'avais déjà joué au 4, mais j'ai découvert un univers vraiment incroyable de détails, de précision, de travail. Et surtout, j'ai redécouvert à quel point Grand Theft Auto fonctionne non pas uniquement sur le fait d'aller tuer les flics et écraser des gens en voiture, bien sûr c'est un élément du jeu, mais surtout pour son écriture tellement intelligente et critique, c'est une satire complète de la société américaine à tous les niveaux. Et c'est hyper bien écrit, c'est hyper cynique et c'est vachement drôle. Et je trouve que, d'une manière générale, cet aspect du jeu est complètement perdu dans les critiques et les conversations qu'on a sur Grand Theft Auto dans les médias grand public, mais même dans les médias spécialisés. Et c'est dommage, il y a des qualités énormes à ce titre, qui évidemment, si elle n'était pas là, je pense qu'il n'aurait pas le succès qu'il a aujourd'hui, mais des qualités d'écriture artistique, quoi, qui sont complètement perdues dans les conversations en général, et moi je trouve ça dommage. Donc voilà, je voulais en parler rapidement, et le mentionner, parce que moi ça m'a frappé, quoi. Évidemment, c'est...
Oui, moi, c'est une des raisons qui me fait que j'ai pas encore GTA, mais que je le veux. Moi, c'est pour ça que je le veux un jour, que j'y jouerai un jour. Mais
oui,
je trouve ça super intéressant. Moi, j'avais vu des critiques justement qui parlaient de ça.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est, alors évidemment, les gens qui font les reviews bien le disent, mais généralement, c'est plus on peut. Enfin, ce dont on parle, c'est équivalent à un jeu où on tue des flics, où on écrase des gens, et c'est dommage, quoi, parce que c'est pas du tout ça, du tout. Enfin, on peut le faire, mais le jeu est tellement plus que ça. Voilà, GTA Grand Theft Auto 5. Jean, à ton tour.
Alors, à mon tour, moi aussi je vais changer de direction. Et là où je me suis vraiment éclaté pendant les fêtes, là, où j'étais tout seul chez moi, c'est sur South Park, The Stick of Truth.
Ouais.
Le bâton de la vérité. Alors, il est sorti le 4 mars 2014, mais moi, j'y ai joué seulement là parce qu'il y avait une super promo pendant les soldes Steam, là. Et ben pour peu qu'on aime l'univers South Park, on se prend un pied phénoménal. Il y a des pets, du caca, des vaches nazies, Al Gore, des extraterrestres, Jésus, des voleurs de slip. Vraiment, voilà. Et c'est sur fond de RPG, donc il y a deux factions, une menée par Cartman et l'autre par les trois autres, Stan, Cartman et Kenny, et l'autre par Stan et Kyle. Et chacun va se battre pour avoir le bâton de la vérité, donc c'est les humains contre les elfes, et tout ça dans le paquet South Park, et c'est vraiment un pur moment de bonheur. On a l'impression de vraiment jouer au dessin animé devant nous, quoi. C'est exactement ça. Et merci la technologie d'aujourd'hui pour nous permettre ça, parce que c'est juste magique. C'est juste magique. Donc, pour peu qu'on aime South Park et tout ce qui tourne autour de l'anus, allez-y.
Quelle description! Ouais, effectivement, j'ai entendu énormément de bonnes choses sur ce jeu, et je l'ai moi-même pris pendant les soldes de Steam, donc j'y jouerai à un moment, mais j'ai tellement de jeux auxquels il faut que je joue, mais oui, c'est vrai qu'il est, il est encensé.
J'ai rarement autant ri devant un jeu, hein.
Ouais.
Mais je suis bon public South Park aussi,
c'est ça, c'est que si on aime ce style, bon. Pour ma part, alors j'ai encore deux jeux dont je voudrais parler, je crois que c'est tout. Et celui-là, c'est un jeu dont je pourrais pas vraiment, je devrais pas parler. C'est Dragon Age Inquisition, auquel j'ai joué pendant 10 minutes seulement. Mais en fait, je m'attendais tellement à quelque chose d'éclatant pendant ces 10 minutes que j'ai été déçu, parce qu'il a été jeu de l'année partout, machin, et les 10 minutes m'ont pas accroché. J'ai trouvé ça un petit peu hasardeux, le système de combat pas super convaincant et tout, mais bon, j'y ai joué que 10 minutes, donc je vais évidemment y revenir plus tard, et j'y jouerai un petit peu plus. C'est juste que Dragon Age, on m'a tellement dit c'est le meilleur jeu de l'année, il a été élu meilleur jeu de l'année dans la moitié des publications du monde, j'attends un petit peu plus. Je vais pas en dire plus parce que c'est pas du tout honnête ou juste de le juger après 10 minutes. C'est même pas le début de l'introduction, donc on verra plus tard. Mais c'est juste bon, voilà.
Alors,
ton jeu suivant.
Bah alors, je vais encore changer complètement de registre pour quelque chose qui est encore en développement, mais qui est encore très efficace, enfin qui est très efficace à l'heure actuelle, c'est The Forest, qui raconte l'histoire d'un mec avec son enfant qui sont dans un avion tranquillement et qui se crashent dans une forêt, apparemment sur une île. Et dans cette forêt, elle est habitée par des mutants cannibales.
D'accord, évidemment.
Qui prennent un malin plaisir à parcourir toute la forêt, mais surtout la nuit. Donc, le jour, il va falloir se construire un petit abri, essayer de survivre, de ne pas mourir de faim. Voilà. Et in fine, essayer de retrouver son enfant perdu. Parce que quand on se crache, on a un flash et on voit le chef d'une tribu qui emporte l'enfant. Et on s'évanouit et après on se réveille et c'est là qu'il faut commencer à survivre. C'est assez efficace parce que les mutants cannibales sont vraiment oppressants.
Non, mais déjà, quand tu dis les mutants cannibales, ça pose le décor, effectivement.
Ouais. Mais ils lâchent pas l'affaire, quoi. Tu vois, ils sont là, ils se déplacent toujours par trois minimum. Et vraiment, ils veulent t'acculer quand ils t'ont vu. T'acculer, tu sais, retrancher.
Non, j'ai compris.
Et ça serait
un autre style de jeu sinon. C'est...
Oui, voilà, ça serait un autre style de jeu.
Excusez-moi, je suis désolé, chers auditeurs, pas mon style, mais c'était trop facile. Vas-y, ouais, continue.
Ils sont quand même tout nus. Hein.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, c'est gore, c'est à base de cannibalisme, quoi. Mais ça procure vraiment des super sensations. Depuis peu, on peut y jouer à deux, enfin, même à plusieurs. Il y a un mode multi, mais à la base, c'est un jeu solo. Ce qui me l'a fait préférer aux différents jeux de survie où il y avait plein de monde, où on pouvait te piquer ta maison et tout, et au bout d'un moment, ça devenait vraiment pénible. Donc là, c'est solo. Ça procure d'autres sensations et ouais, c'est chouette.
D'accord. Donc The Forest. Oui, moi je suis pas très fan de ces jeux de survie, j'avoue. J'en ai essayé un ou deux, mais ça me parle pas toujours. Et c'est des jeux qui ont l'air super sympas à vivre, mais quand on rentre pas dedans, bon, j'essaierai peut-être d'autres.
Ouais, voilà.
D'autres
non, mais encore, j'en ai essayé 2-3 qui me donnaient cette impression-là, et le fait que celui-là soit pas multi, c'est vraiment plus agréable.
D'accord. Bon, donc The Forest pour toi.
Ouais.
Moi, je crois que ça va être mon dernier jeu de Noël. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Assassin's Creed Unity, qui a été décrié pour ses problèmes au lancement. Et justement, il a été hyper raillé parce qu'il y avait plein de soucis quand il venait d'arriver. Et franchement, moi qui l'ai eu à Noël et donc après le dernier patch qui corrigeait tous les problèmes, j'ai été émerveillé. C'est un jeu qui est d'une beauté absolument phénoménale. Paris est détaillé avec un soin qui est incroyable. Moi, c'est ma vraie première claque next-gen. C'est graphiquement invraisemblable, quoi. Je reste à tourner dans le jeu juste pour regarder des trucs. Il y a des foules, mais incroyables. Alors, parfois, ils en abusent un petit peu. Il y a vraiment des foules partout dans Paris. T'as l'impression que Paris, il y a 20 millions de personnes dans l'île de la Cité, quoi. Mais non, c'est graphiquement invraisemblable, qui est fait avec un soin incroyable. Au niveau du gameplay, bon, bah, c'est un Assassin's Creed. Hein. Si vous n'aimez pas Assassin's Creed, celui-là ne va pas forcément vous plaire plus. Mais si vous êtes mi-fig, mi-raisin sur Assassin's Creed, celui-là apporte, à mon sens, suffisamment d'amélioration et de surprise. Il y a même des choses un petit peu étonnantes qui se passent. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et franchement, là aussi, je trouve que c'est dommage qu'on ait parlé que des problèmes, même si c'était justifié. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas justifié, mais c'était dommage qu'on ait parlé que des problèmes, alors que le jeu est tellement, tellement beau. C'est un raté pour Ubisoft qui est tellement amer parce que ça aurait dû être leur accomplissement pour le lancement de cette génération et malheureusement, à cause des problèmes au lancement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je voulais juste mentionner le fait qu'il est sublime et que ça vaut le coup, si vous voulez, une claque graphique, d'y jeter un coup d'œil, quoi. Je vais aller regarder mes jeux pour m'assurer que j'en ai pas un de plus, mais vas-y, commence et je reviens tout de suite.
Alors, j'ai fait, si vous voulez plus de détails, j'en parle dans le dernier podcast, This War of Mine, qui est un jeu de guerre, mais un jeu de guerre très différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. En fait, This War of Mine, ça raconte la guerre, mais du côté des survivants, du côté des civils qui essayent tant bien que mal de survivre. Donc, c'est parti d'un fait réel qui est ce qu'il y a eu en 92 à Sarajevo. Et en fait, on essaye vraiment... Alors là encore, c'est un jeu de survie, mais c'est pas du tout le même style que The Forest. Là, on est dans une ville et c'est vraiment la misère pour survivre. Le moindre quignon de pain, c'est un trésor. La journée, on va essayer d'améliorer un petit peu son habitat. Et la nuit, on va sortir parce que la nuit, les snipers voient beaucoup moins bien, donc on risque beaucoup moins de se prendre une balle. Et on va sortir explorer le voisinage. Oui, et encore. On va sortir explorer le voisinage pour essayer justement de trouver de la nourriture, de trouver des médicaments, des bandages, des matériaux, de quoi calfeutrer les fenêtres, de quoi se chauffer. Et voilà, c'est vraiment cruel. C'est en 2D, hein. Enfin en 2,5D comme on dit. Enfin, vraiment, ça nous épargne rien. Et psychologiquement, ça peut être très, très dur. Moi, j'étais... Il y a certaines choses qui sont arrivées au bonhomme que je dirigeais. Donc, on a un groupe de 3 qui peut gonfler à 4. Mais c'est un choix. Si on a 4 bouches à nourrir, c'est plus difficile. Et c'est vraiment une expérience très intéressante. Mais par contre, si vous êtes un petit peu déprimé, attendez d'aller mieux. Parce que vraiment, c'est psychologiquement un petit peu dur.
Ouais, je confirme, on en avait beaucoup parlé dans un épisode précédent du Rendez-vous Jeu, et moi je l'avais essayé à cette occasion, et c'est vrai qu'il est chaud, quoi. C'est l'idée, c'était vraiment de donner aux gens, au-delà de, enfin, le revers de la médaille des jeux de guerre, souvent des FPS justement où on détruit tout, où on fait la guerre, machin, où c'est des jeux, hein, donc voilà, ça va. Mais c'est plus l'idée de faire passer un sentiment presque d'éducation sur la réalité. Et c'est vrai que ça marche vachement bien, quoi. C'est...
Ah oui, et pour la petite histoire, j'ai fait mes études avec quelqu'un qui a vécu le siège de Sarajevo et qui a suivi le jeu et qui trouve que le jeu est quand même très très bien, qui retranscrit vraiment bien ce qu'on peut vivre dans ces temps-là.
Ouais. Donc This War of Mine, c'est un jeu qui est disponible sur PC.
Oui, sur Steam pour l'instant, et il va y avoir une version boîte là au mois de janvier.
Très bien. Et mon dernier jeu, je crois que c'est ton dernier, hein, celui-là.
C'est mon dernier, mais... Vas-y, j'aurai un petit truc à rajouter après.
D'accord. mon dernier jeu, c'est un jeu qui est sorti cette année, mais qui était une mise à jour d'un jeu plus ancien. C'est Persona 4 Arena Ultimax. Persona 4, j'en ai déjà parlé dans cette émission, c'est une série... Enfin, Persona, c'est une série extrêmement japonaise qui vous plonge dans le Japon. Et là, c'est un jeu de combat sur PlayStation 3, qui est tiré de l'univers de cette série de jeux de rôle à la base, qui est vraiment hyper bien fait pour un jeu de combat. La manière dont il adapte les principes du jeu de rôle en jeu de combat, c'est pas mal fait du tout. Et puis, il y a plein de petits modes sympas. Il y a un mode où on doit faire monter son personnage comme dans un jeu de rôle, mais en faisant des combats. On peut laisser l'ordinateur jouer tout seul et le transformer en jeu de gestion presque. Il y a un mode histoire où on va juste suivre l'histoire qui est pas mal fait non plus.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bref, c'est moi j'aime beaucoup les jeux de combat et ça c'était un style de jeu super beau, super délirant auquel je voulais jouer depuis un bon moment et finalement je l'ai commandé pas cher sur Amazon et je suis très content de mon achat. Donc voilà, Persona 4 Arena Ultimax, c'est un jeu de combat donc faut aimer les jeux de combat, mais si vous êtes dans cet univers, il est pas mal franchement. Tu voulais donc ajouter quelque chose ?
Oui, alors juste un petit truc parce que tout le monde peut pas le faire, mais j'ai eu accès pendant les fêtes à l'alpha de Heroes of the Storm et je me suis éclaté. j'ai jamais fait de MOBA de ma vie, hein. Mais
alors Heroes of the Storm, c'est effectivement une sorte de MOBA développé par Blizzard qui est encore en alpha, oui.
Voilà, et que donc la bêta va être le 13 janvier, je crois. C'est du Blizzard, quoi. C'est accessible tout de suite, c'est fun tout de suite. Comme je l'ai dit, j'ai jamais fait de MOBA et j'ai trouvé mes marques en 10 minutes. Donc, c'est très bon potentiel, surveillez ça de près.
Oui, effectivement, il est sympa. Je confirme. et puis moi, bon, je vais juste ajouter aussi, puisque tu as ajouté un truc. J'ai acheté pendant les vacances en promo à 5 euros pièce Tekken Tag Tournament et Tekken Tag Tournament 2 et Soul Calibur 5, je crois, sur PlayStation 3, donc ils étaient en promo en digital, à 5 euros, comme je le disais, et je me suis éclaté avec un pote, et voilà, c'était marrant aussi. Mais ça, c'est des jeux beaucoup plus vieux, évidemment.
Ouais.
Bon, passons à nos jeux de... les jeux de 2015, parce que l'année s'ouvre, et comme toujours, il y a beaucoup de promesses, dont une bonne partie, je pense, ne sera pas tenue. et bon, on va quand même vous en parler pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Alors, j'ai deux systèmes de classement des jeux, soit des plus attendus, enfin des plus triple A au moins triple A, des plus blockbusters au moins blockbusters, soit chronologiques. Je crois qu'on va le faire en chronologique, c'est un peu plus...
Ok, bon, comme tu veux, moi, ça me va.
Alors, premier trimestre, on a le 10 février, Evolve, qui est un jeu de un FPS en équipe asymétrique, c'est-à-dire qu'un personnage joue le monstre et quatre autres personnes jouent les chasseurs qui doivent l'arrêter. Et à la fin, bah, c'est soit le monstre, soit les chasseurs qui gagnent. Grosse promesse, c'est les développeurs de... j'allais dire The Last of Us.
Left 4 Dead.
Left 4 Dead, merci. De Left 4 Dead qui ont développé ce jeu. Moi, je l'attends un petit peu parce que j'adore Left 4 Dead et puis l'idée me séduit. Je ne sais pas si tu as joué à la Big Alpha.
J'ai joué à la Big Alpha, justement.
Ouais,
j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pas eu énormément de temps parce que c'était juste le temps d'un week-end. Donc j'ai pas tout testé, mais j'ai testé ce que tout le monde veut tester, c'est-à-dire le monstre.
Ouais.
Et bizarrement, on n'est pas aussi puissant que ça, tu vois. T'as pas le, ouais, c'est moi le monstre, je vais tout foutre en l'air. T'es le monstre, il faut déjà que tu évolues, d'où le nom Evolve. Tu commences en stade 1, il faut que tu ailles en stade 3. Donc pour ça, il faut que tu ailles sur la map pour manger des créatures qui traînent. Et du coup, au début, t'es vraiment chassé. Et ouais. T'as toujours ce sentiment d'oppression de la map est pas si grande que ça et t'es toujours oppressé par les autres, tu sais qu'ils sont là, ils ont des outils pour te retrouver, ils traquent tes pas, il y a une sorte de chien alien qui peut renifler l'odeur, etc. et du coup t'as vraiment ce sentiment d'être constamment traqué et tu peux pas te reposer, tu peux pas te planquer, tu peux pas donc voilà. Mais par contre quand t'arrives au stade 3, là c'est toi qui chasses.
Voilà.
Par contre, quand tu es du côté chasseur, ça demande une vraie coordination. T'as pas besoin de te parler. De toute façon, le jeu est tellement nerveux que tu peux pas parler au clavier. Il faut que tu parles au micro. Mais moi, j'avais pas de micro à ce moment-là. Et ça m'a pas empêché de me coordonner avec les autres. On voit ce que font les autres, c'est assez clair. Et tu sais quel est ton rôle. On te l'explique au début, la première fois que tu joues une classe, on t'explique comment jouer. Ça fait partie de l'intro. Et. C'est vraiment super efficace. Là où
donc le pari, c'est un pari difficile, mais ça a l'air réussi, quoi.
Ça a l'air réussi. Là où je me pose encore la question, c'est est-ce que, je vais y jouer 2 semaines, est-ce que ça va être amusant après 2 semaines encore? Est-ce qu'il va y avoir d'autres modes de jeu que celui-là, etc. Bon, je pense, vu qu'à chaque fois qu'ils font une annonce, c'est pas des petites annonces. Moi, je suis assez confiant. Mais,
d'accord.
Et de ce que j'en ai joué, c'est très bien.
Moi, je préfère généralement les jeux en multi, en coop, plutôt qu'en compétitif. Mais bon, ça peut être intéressant à tester, effectivement. Et puis, ça arrive dans à peine un mois. Donc,
Oui.
Ensuite, 10 jours plus tard, le 20 février, il y a The Order, qui est un des gros titres qui avait été annoncé avec la PlayStation 4, qui visiblement est un peu moins gros que ce qu'on avait vu au tout début. En gros, ça serait un third-person shooter assez classique, donc vu sur l'épaule, et un truc assez classique dans le gameplay. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit bon, c'est peut-être pas aussi fantastique qu'on aurait pu le penser à l'origine quand ils l'ont testé, mais il y a quelqu'un qui m'a donné une impression qui m'a parlé, c'est qu'il disait c'est un petit peu un jeu où on suit l'histoire et où on arrive ensuite dans des arènes entre guillemets, à la même manière que Uncharted, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui est super sympa à suivre, puis de temps en temps on a des passages où il faut tuer tous les gens ou s'échapper ou résoudre un puzzle et puis ensuite on suit l'histoire. Et ben là c'est un petit peu la même chose avec cet univers un petit peu étrange victorien avec des loups-garous et ce genre de choses. Et voilà, et c'est l'un des titres exclusifs sur PlayStation 4. Pourquoi pas, ça peut être sympa.
Ouais, je l'ai pas beaucoup suivi. Moi, juste la crainte que j'ai, c'est qu'il fasse un peu comme Thief. Qu'on en attende beaucoup et que voilà.
Mais, c'est vrai qu'on en attendait beaucoup il y a un an. Aujourd'hui, je crois que justement les attentes sont un peu retombées. Donc peut-être qu'ironiquement, ça pourrait.
Mais de ce que tu viens de m'en dire là, oui, ça me donne plus envie là déjà.
Ouais, c'est cette vision du truc qui change les attentes et qui du coup pourrait. Bon, je suis pas sûr que je le paierais 60 ou 60 euros, mais j'attendrai un petit peu, je pense. Battlefield Hardline, qui a été décalé pour éviter des problèmes au lancement, ils ont peut-être une bonne idée, le 17 mars. Battlefield, c'est une grosse série de first-person shooter militaire, de jeux de tir militaire, et là, ils ont fait une approche qui, moi, me séduit pas mal. C'est un cadre complètement différent, un petit peu à la manière dont Call of Duty avait changé leur cadre quand ils sont passés de la Deuxième Guerre mondiale à la guerre moderne, avec Modern Warfare. Là, en fait, ils vont dans l'univers de la police. Ils le structurent comme une série télé, une série télé policière comme il y en a beaucoup. Et même les missions sont structurées comme des épisodes. C'est hyper nerveux. Il a l'air d'y avoir une histoire à suivre qui est importante à la manière de des jeux à histoire, hein, du type Uncharted, peut-être The Order, etc. Et la réalisation a l'air très correcte. Moi, ça m'intrigue. Là où habituellement j'étais pas fan de Battlefield, ça m'intrigue.
Ouais, je suis pas fan de Battlefield non plus. Et alors, c'est vrai que ça a l'air super nerveux, c'est super bien fait, ça a l'air aussi assez scripté, ce qui est pas forcément un mal, hein, mais ça participe à la mise en scène. Mais enfin, moi, je suis plus circonspect quant à ce genre de jeu, mais c'est parce que c'est pas vraiment mon truc.
Ouais, je comprends. Et puis, pour les Battlefield, généralement, c'est le multi qui est hyper important.
Ouais, voilà. Bon, voilà.
Moi, c'est pas un truc qui me parle, donc. Si, ça me parle un peu, mais moins, on va dire. Project Cars, 3 jours plus tard, le 20 mars, pardon. Entre parenthèses, Project Cars, oui, non, j'allais dire tous les jeux dont on a parlé sont multiplateformes. En fait, c'est pas le cas. The Order est bien sûr sur PlayStation 4 seulement. Project Cars, multiplateforme aussi. Un jeu de voiture, bon, voilà. Moi, c'est pas forcément mon
truc.
Un jeu
de voiture, voilà.
Je suis sûr qu'il y a... en fait... C'est le Project Cars, ça veut dire Community Assisted Racing Simulator. C'est un jeu de simulation, hein, de vraiment simulation, pas vraiment arcade, de simulation de voiture. Donc, je pense que c'est un truc qui va plaire aux gens qui aiment les simulations, hein. Il y en a plein, c'est un style, un sous-style en fait à part entière dans les jeux de voiture, et c'est un jeu qui a été financé par la communauté et les développeurs, donc ils n'ont pas l'argent d'un publisher, d'un éditeur classique, donc c'est la petite spécificité de ce jeu, mais bon voilà, ensuite à savoir s'ils vont réussir à...
Ouais, parce que les places sont déjà pas mal prises.
C'est ça. Il y a Gran Turismo et Forza Motorsport qui sont sur PlayStation et sur... Bon, il n'y en a pas encore sur PlayStation 4, mais il y a d'autres jeux. Donc, il y a une approche un petit peu sandbox, monde ouvert, enfin, bac à sable plutôt. Donc voilà, bon, c'est pour les fans de jeux de voiture dont je ne suis pas, donc je ne peux pas forcément en parler avec une grande connaissance de cause. Bloodborne, tu connais Bloodborne? Peut-être que tu
oui,
veux en parler.
Voilà. Bloodborne. Alors, ce que j'en ai vu, c'est le Dark Souls, enfin le renouveau de Dark Souls, qui pourtant n'est pas mort.
C'est ça, non?
Qui se porte très bien.
Des éditeurs différents.
Et
mêmes développeurs, en fait, c'est ça. C'est les développeurs de Bloodborne qui. Ouais.
Et ça a l'air, pour le coup, celui-là a l'air vraiment très prometteur. Donc, une difficulté aux petits oignons pour les vrais bonhommes qui en veulent. une ambiance... on est là aussi à l'époque victorienne, il me semble. Hein.
Ouais. Enfin, c'est un truc un petit peu bizarre, différent, mais une esthétique un petit peu victorienne, effectivement.
Ouais, c'est ça. Avec c'est glauque, c'est sombre, c'est gore. Par contre, le pitch, c'est peut-être toi qui va.
Le pitch, hein, à la limite, il est pas tellement important. C'est comme tu disais, c'est un jeu troisième personne où on a des armes, des épées, des armes de mêlée, quoi.
Un peu dégoulinante, un peu.
Voilà.
Un peu bizarre.
Où la difficulté du gameplay est l'attrait principal, comme sur les Dark Souls. et puis surtout, c'est un exclusif PlayStation 4. Il a l'air un petit peu plus accessible que les précédents, un petit peu plus dans la veine de Dark Souls 2 que de Dark Souls 1. Et moi, je me dis, c'est peut-être celui que je vais essayer dans cette série sérieusement pour la première fois, quoi.
Ouais, moi, le gameplay me semblait plus fluide, moins punitif que Dark Souls. Mais après, c'est juste à voir comme ça.
Oui, c'est ça. Disons que l'un des intérêts, c'est la difficulté, justement. Et puis l'absence. On doit tout découvrir dans ces jeux, en fait. C'est, on essaye, ouais. Et puis on voit ce qui se passe et on essaye d'appréhender. C'est pas du tout téléphoné comme les jeux modernes, entre guillemets. C'est vraiment, vous êtes livré à vous-même et vous devez vous démerder, quoi. Donc, voilà. Moi, je suis curieux. Gentiment ah oui, curieux. Oui. Et il est très beau et PlayStation 4 uniquement effectivement.
Oui.
Deuxième trimestre, on commence avec un truc qui rappellera des bons souvenirs aux fans de ce type de jeu, ou plutôt de ce jeu en particulier, c'est Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 10 qui sort le 14 avril. Alors Mortal Kombat, on ne le présente plus, hein, série de jeux de combat hyper sanglants. Là aussi, à l'époque, c'était les gros scandales parce qu'on pouvait couper des têtes et arracher des colonnes vertébrales. Il ne s'est pas assagi avec le temps. Et il y avait un trailer qui, franchement, était assez sympa. Moi, ouais. Je l'avais bien aimé. Bon, ça m'a donné envie, quoi.
Mortal Kombat, c'est le jeu de combat qui te fait passer une soirée entre potes. Excellente, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, déjà ça va susciter plein de débats chez toi, donc déjà ta soirée va être animée même sans jouer. Et après c'est vrai que le mauvais goût de Mortal Kombat est tellement bien assumé que c'est un plaisir constant.
Ouais, effectivement.
Donc Mortal j'attends avec Kombat, impatience.
Ouais, là aussi il est multiplateforme. Mighty Number 9, un jeu un petit peu hors norme par rapport à tous ceux dont on a parlé qui étaient un petit peu des gros morceaux. Mighty Number 9 est un jeu qui a été financé par Kickstarter, qui est un jeu de Keiji Inafune, un développeur japonais extrêmement connu, qui a développé qui était à l'origine de la série Megaman, dont d'ailleurs Mighty No. 9 est extrêmement inspiré, plus extrêmement
inspiré.
Ah bon,
j'ai pas vu du tout l'influence.
Et donc il sort en avril, on sait pas quand exactement. Et il sort sur toutes les plateformes. Bon, voilà, si vous aimez ce type de jeu, c'est gardez un œil là-dessus. C'est un jeu de plateforme, où vous détruisez vos ennemis et avec chaque boss, on a des nouvelles capacités.
C'est clairement un clone de Mega Man.
Ah oui, complètement, complètement. Toi, c'est un truc que t'attends, ce genre de jeu ?
Bah, j'aime beaucoup les Mega Man, mais. Moi, je dis pourquoi pas, hein, mais ça me gêne de pas avoir Megaman, quoi.
Oh, mais c'est le créateur de Megaman.
Mais je sais, mais pourquoi ? Megaman fonctionnait très bien.
Bah, parce que justement, il a été trahi par Capcom.
Ouais, bah oui, oui.
Bon. L'un des jeux les plus attendus de toute l'année, peut-être même le jeu pour lequel les passionnés sont les plus excités, The Witcher 3. Je sais pas si t'es fan de jeux de rôle, toi, ou si t'es fan de The Witcher.
J'aime beaucoup, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2 de Witcher. J'ai mon beau-frère qui a lu les bouquins, qui trouve ça super aussi.
Bah, peut-être que tu peux nous en parler alors, parce que moi, j'admire de loin The Witcher. J'ai essayé le 1 trois fois, j'ai essayé le 2 deux fois, j'ai pas réussi à me plonger dedans. Donc je me dis peut-être que le 3, ça sera celui qui me convaincra.
Le 1 était un peu rigide. Mais... Donc The Witcher, c'est l'histoire d'un sorcereur, donc Geralt de Rive, ça dépend de quel côté on se place de la version originale. Donc son boulot, en fait, c'est d'aller tuer du monstre. Et pour ça, il a des. Alors, il est un peu spécial. C'est un mutant. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites sur lui pour le transformer en mutant. Il y en a qui survivent, il y en a qui survivent pas. Donc lui, il a survécu et donc c'est un
mutant. Je précise que c'est un univers médiéval fantastique, hein, parce que expériences, on pourrait se dire que c'est futuriste.
Oui, non, c'est à base de potions et ce genre de choses. Et donc depuis 3 épisodes, on nous fait suivre les aventures de Geralt à travers le monde. On l'a fait voyager à travers le temps, en quête d'identité, parce qu'il savait plus très bien qui il était. C'est un univers très très riche. On va lui demander de soigner des gens, de tuer du démon, de libérer des régions. Et le troisième volet est un open world. Donc, en fait, on va prendre toute la sève de ce qui fait The Witcher et on va l'adapter en open world, ce qui fait que le potentiel de ce jeu est juste énorme et juste phénoménal. Si on a un open world qui est très bien réussi à la Skyrim, où on a des quêtes tous les 5 mètres et on peut vraiment choisir ce qu'on fait, et ça a l'air effectivement riche de ce que j'ai pu en voir, on a un jeu de rôle, donc comme tu l'as dit, médiéval fantastique, qui promet de nous tenir de très très longues heures. Parce que, oui, faut le savoir, The Witcher, c'est pas un jeu qui se finit non plus comme ça. Hein.
Oui, c'est assez long, effectivement. Donc, ça sort le 19 mai sur toutes les plateformes. Enfin, je crois que c'est... peut-être que c'est pas l'ancienne génération de consoles.
J'ai pas fait gaffe.
Je crois que c'est PlayStation 4, Xbox One et Windows, bien sûr, puisque CD Projekt, oui, les développeurs polonais de ce jeu, sont très attachés au PC. Oui, c'est ça.
Oui, alors, entre le 1 et le 2, quand on y jouait sur Steam, la sauvegarde du 1 était récupérée dans le 2. Donc, ça nous faisait des petits éléments qui étaient... rattaché au 1 qui se retrouvait dans le 2. Je ne sais pas s'ils vont faire pareil entre le 2 et le 3.
Donc voilà, l'un des jeux les plus attendus, effectivement. Il a été décalé en plus plusieurs fois pour être sûr qu'il sorte, qu'il soit bien. Et vraiment, The Witcher a fait la réputation de CD Projekt, qui est devenu un développeur adulé par ses fans. Sans doute pas aussi grand public que d'autres.
C'est un des rares jeux où on n'en veut absolument pas aux développeurs de repousser leur jeu. On leur dit, allez-y les gars, prenez votre temps, on s'en va.
Le 2 juin, on a un jeu que moi, j'attends énormément. C'est Arkham Knight, et pas avec un N, mais avec un K, contrairement à ce que j'ai écrit dans les notes de l'émission. Arkham Knight, donc la série des Batman qui m'a rendu Batman cool. On avait eu Arkham Asylum et Arkham City, qui sont deux jeux que j'ai découverts il y a quelques années, genre un an après leur sortie, et que j'ai dévoré pendant une période de Noël, justement. Et il y avait Arkham Beginnings, le jeu qui est sorti l'année dernière, qui faisait l'attente avec le prochain jeu. D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises. Je vais retrouver le nom du développeur. Oui, c'est Rocksteady, c'est ça. Alors, l'épisode de l'année dernière avait été développé par un autre développeur, mais là, Rocksteady revient. Et entre parenthèses, je veux faire Arkham Knights et... Pardon. Arkham Beginnings, Arkham Origins, qui est le jeu donc de l'année dernière. Je vais le faire aussi, il est sur ma liste. Mais j'attends vraiment Arkham Knight avec beaucoup d'excitation, parce que j'avais tellement adoré les précédents. C'était un open world où Batman avait des capacités tellement agréables à prendre en main et faciles à... En fait, ce qui frappe dans ce jeu, c'est la fluidité du jeu. Tout ce contrôle au millimètre. Alors, contrairement justement à Assassin's Creed, où ça peut être hyper frustrant parfois, où on est en train de courir et puis on monte sur un tonneau alors qu'on voulait courir et puis on n'arrive pas à en descendre, il faut appuyer sur l'autre bouton, machin. C'est parfois un petit peu frustrant dans Assassin's Creed. Là, dans la série des Batman, c'est tellement bien fait, tellement fluide. Et le système de combat qui avait été introduit par le premier, justement, est encore aujourd'hui super agréable, repris par plein de jeux où il est hyper simple à exécuter, mais il a une profondeur vraiment réelle. Enfin bref, j'ai que des bonnes choses à dire sur Batman. C'est l'un de mes jeux préférés de ces dernières années et j'attends Arkham Knight avec beaucoup d'impatience. Il sortira donc le 2 juin.
Et il y a une vraie culture du comics derrière aussi. Qui est pas reprise dans les films ou dans, mais là dans le jeu, je trouve que la culture Batman du comics, il y a un vrai héritage en fait.
Ouais, et en plus, il y a en fait, ça te fait découvrir la profondeur de Batman, là où les films justement sont un petit peu, alors la dernière trilogie est un petit peu plus s'approche plus de ça, mais je me souviens du premier, la confrontation entre Batman et le Joker, et surtout la conclusion, moi j'en avais presque les larmes aux yeux, c'était tellement fort. Et puis en plus c'est hyper bien écrit, moi j'avais passé de longs moments à écouter les conversations des thugs, des méchants dans la rue, quoi. C'était juste les gangs, et ils disaient des trucs tellement drôles, et c'était, enfin bref, super super jeu, je l'attends avec impatience. Et celui-là, par contre, c'est multiplateforme. Si je ne m'abuse, il sort pas sur les... Oui, c'est ça. Il sort pas sur les anciennes générations non plus. C'est PlayStation 4, Xbox One et Windows. On passe ensuite à ceux pour lesquels on a des dates moins précises. Troisième et quatrième trimestre, Star Fox sur Wii U sortira sans doute à ce moment-là, entre le troisième et le quatrième trimestre, puisqu'il nous a annoncé, il nous a été annoncé qu'il sortirait avant Zelda. Zelda U. Alors Star Fox, bon, c'est un jeu de bon, on présente plus Star Fox, un jeu de tir spatial, machin. Pourquoi pas, moi, j'avais pas adoré, enfin, j'avais pas joué à ceux sur, je sais même plus si c'était DS ou 3DS. Bon, ça me paraît pas être le format adapté. Là, sur Wii U, peut-être. Être sympa.
Oui, non, enfin, c'est toujours efficace que ce soit plus ou moins bien développé. C'est toujours, enfin, ça assure toujours le minimum et on passe toujours au minimum un bon moment.
Voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de hurler parce qu'ils attendent Star Fox.
Ah oui, non, mais après, je dis pas que on peut ne pas passer d'excellents moments. Hein. Moi,
oui, oui.
Moi, je me souviens Star Fox sur Super NES, c'était.
Voilà, oui, oui, oui,
c'était le Nirvana. Mais.
Star Wars Battlefront, un jeu de DICE qui développe aussi les, enfin spécialiste du FPS puisqu'ils sont, ils développent les Battlefield. Et là, c'est un jeu qui va sortir en coordination avec les, le film Star Wars, le prochain Star Wars. Donc c'est vraiment le truc où ils peuvent pas se rater, quoi. Un jeu de tir Star Wars dans l'univers des nouveaux. C'est vente assurée, quoi. Et en plus, c'est un studio qui sait faire le boulot. C'est pas un truc qu'ils ont donné à un studio un petit peu pourri parce que ça se vendrait sur la licence. Donc, tu l'attends avec impatience, j'imagine. Je sais pas, je présume que t'aimes Star Wars, mais...
Le film, non.
Mais les jeux, oui, c'est ça
les... Bah, écoute... visuellement, ça m'a fait tellement une bonne impression que oui, effectivement, j'ai envie parce que l'ambiance est très très bien retranscrite, ouais.
Ouais. Bon, bah, on l'attend effectivement. C'est pour la période des fêtes, hein, donc c'est plutôt au quatrième trimestre ouais. que troisième. Mais c'est vrai qu'il est joli, hein. Franchement. Enfin, il a l'air en tout cas. Visuellement, il y a des trucs intéressants, quoi. Et puis cet univers. Enfin bon, il y a tellement de... En fait, ce qui est intéressant et frustrant avec Star Wars, c'est qu'il y a tellement de potentiel, un tel potentiel énorme avec cet univers qui n'a jamais été exploité en jeux d'action. Il y a des jeux de rôle qui sont très bons, les jeux de rôle de BioWare notamment, Knights of the Old Republic, etc. Mais dans d'autres styles, ça n'a jamais vraiment bien été exploité. Donc bon, alors, il y avait TIE Fighter, tout ça, mais...
Ouais, mais moi Star Wars, j'ai une jauge qui vaut ce qu'elle vaut, hein, pour voir si ça marche ou si ça marche pas. C'est que on a tellement eu de culture de Star Wars que quand tu commences à rentrer dans un nouveau truc Star Wars, si tu te sens comme dans un cocon, c'est gagné.
Ouais. Ça peut effectivement, si t'es tout de suite à l'aise, tu voilà, te trouves tout de suite tes marques, ouais. Bon, pour Noël, effectivement, un autre truc qui arrive pour Noël, pour les vacances en tout cas, c'est Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, la suite du reboot de Tomb Raider que moi j'avais adoré et qui là, pour le coup, ne sortira que sur Xbox One. C'est que Xbox One ou Xbox 360, je crois que c'est que Xbox One.
Non, je crois que c'est que Xbox One.
Ouais. Et donc, il a été payé par Microsoft pour sortir effectivement sur sur leur console. Moi, je l'attends avec un... T'avais aimé, toi, le...
Alors, oui et non. J'avais beaucoup aimé jusqu'à un certain point. Et au bout... disons, le dernier tiers du jeu m'a profondément ennuyé.
C'est vrai ?
Parce que c'est... Ah, c'est... C'est bon, on avait compris, et c'était toujours la même chose. et à la fin, tu fais que du gunfight, et c'est tout. Et c'était lourd. Enfin, voilà.
Moi, ça m'avait...
Autant c'est super bien mis en scène, c'est beau, ça fonctionne hyper bien. Autant la fin, le dernier tiers m'avait ennuyé, et ma femme y a joué aussi, et pareil. À la fin, c'était « Oh, vas-y, tiens, fais-le, je veux savoir la fin, mais vas-y, fais-le ».
D'accord. Bon, moi, ça m'avait gardé en haleine jusqu'au bout. Comme tous ces jeux, parfois, c'est un petit peu trop long. Mais franchement, là, je l'avais trouvé super réussi. Donc, Ah bon, bah, et puis, personnellement, et pour puis, moi,
enfin, elle n'était pas crédible non plus parce qu'au début du jeu, elle se prend une flèche, machin. Enfin,
sur non, le côté. Moi, j'ai trouvé... Non, mais enfin.
Mais oui, non, mais. Pardon. Pendant tout le jeu, elle saute, elle machin, et puis à un moment du jeu, hop, sa blessure, elle lui fait mal, et là, du coup, elle peut plus marcher, elle peut plus.
Ah, mais ça, c'est tellement. Tu sais, c'est marrant parce que il est vraiment comparé à. C'est Uncharted, hein. Le jeu, c'est Uncharted, c'est exactement pareil.
Oui, je suis d'accord.
Et dans Uncharted, c'est exactement la même chose. Le mec.
Non, dans Uncharted, quand il a un truc qui va pas, on voit, il a un truc qui va pas, mais il se le garde pas de côté pendant 3 heures pour ensuite dire « Ah, j'ai mal ».
D'accord, bon, ok. Moi, je trouve que tu pinailles, mais...
Oui, mais ça m'a empêché, tu vois, de rentrer bien dedans, quoi.
Ouais, je comprends. Entre parenthèses, j'ai dit une bêtise, il est sur 360 aussi. Donc, c'est toutes les consoles
Microsoft.
Moi aussi,
j'ai dit une bêtise.
Et oui, moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. C'est... peut-être le jeu qui me fera acheter la Xbox One si je ne l'ai pas encore acheté d'ici là. Peut-être. Bon, enfin, celui-là et les autres. Hein, c'est, il y a plusieurs jeux auxquels je veux jouer sur cette console. Et notamment Halo 5, qui sortira lui aussi le quatrième trimestre. Bon, Halo 5, jeu de tir mémorable. Enfin, Halo, série de FPS qui a amené le FPS sur console, la série phare de la Xbox. On ne la présente plus, il sera sur Xbox One. Voilà, bon, c'est le jeu de tir que moi, là encore, j'aimerais bien faire la série des Halo. Et je me dis que ça serait une bonne occasion... De commencer et puis peut-être après faire la Master Chief Collection. Je sais pas. Bon, voilà, Halo 5, pas plus à dire. Hein. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter.
Non. Peut-être mettre un petit easter egg avec Nabila dedans. Mais...
oh, c'est tellement facile. Tout le monde l'a fait.
J'ai honte.
Au moins, t'as honte, c'est bien. Zelda U, qui sortira lui aussi cette année. Bon, le jeu, là aussi, il y a peu de choses à dire. Hein. C'est incroyable, c'est merveilleux, sublime, selon les fans. Et moi, perso, j'attends de voir. Mais j'aime beaucoup
pareil,
Zelda.
Pareil.
Hein, mais bon.
J'aime beaucoup Zelda. Depuis qu'ils sont passés à la 3D, j'ai un peu plus de mal. Mm. Mais oui, à voir. C'est très beau.
Très bien. Majora's Mask Remake sur 3DS qui sera sorti entre-temps. Bon, pour Zelda, il y a de la matière cette année. Alors là, on arrive aux jeux qui sont TBD, To Be Determined, avec mon accent français que je prends exprès. On ne sait pas quand ils sortiront en 2015, la plupart risquent de sortir vers la fin de l'année, parce que les grosses sorties, c'est souvent la fin de l'année, mais il y en a qui risquent de sortir à un autre moment. Alors, il n'y a pas forcément que des gros jeux. Quantum Break... est un jeu assez intrigant, où on arrête le temps, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont étonnantes dans ce jeu, et surtout c'est Remedy Entertainment qui développe, qui ont fait d'autres jeux extrêmement connus comme Max Payne et ce genre de trucs. Bon, ce qu'on en a vu n'est pas hyper convaincant au niveau du gameplay, mais il y a un truc intéressant, c'est que c'est couplé avec une série avec laquelle le jeu va interagir dans le sens que la narration sera complète que si on a vu les deux. Bon, généralement je me méfie de ce genre d'essai, mais... Soyons pleins d'espoir, on va dire.
Oui. Moi, ça m'avait intrigué. Les trucs où il faut manipuler le temps et tout ça, moi, ça m'intrigue toujours beaucoup. Après, Remedy avait très bien utilisé le bullet time dans le premier Max Payne. On en a mangé jusqu'à en vomir et encore, on en redemandait encore parce que c'était cool, parce qu'il y avait Matrix en même temps. Et voilà.
C'est ça.
Maintenant, est-ce qu'on va avoir le même effet, sachant que est-ce que ça va être cool pareil et qu'on va pouvoir en manger jusqu'à en vomir et en redemander, ou on va s'arrêter à vomir? Voilà. Mais c'est très 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 intrigant. Et ouais, moi j'attends. Ouais.
Est-ce que tu avais joué au premier Mirror's Edge? Ah oui, entre parenthèses, oui. Quantum Break est sur Xbox One seulement. Mirror's Edge.
Oui. J'avais beaucoup apprécié Mirror's Edge. Ça fait partie de ces jeux qui n'ont pas connu le succès commercial, alors que c'est bien dommage. C'était vraiment une pépite qui, en plus, a très très vite coûté pas cher, donc c'était très accessible à tout le monde. Et donc c'est un jeu à la première personne. On pourrait dire un FPS, mais on ne tire que très peu dans le jeu, même si on, des fois on a un pistolet entre les mains. Et en fait, on est un runner, une fille qui fait du parcours. Elle s'appelle Faith.
Parcours avec un K, hein, le sens.
Oui, avec un K. Donc ouais. au sens, on va sauter de toit en toit, on va crapahuter sur les murs, etc. Et on est un messager, donc notre boulot, c'est dans un futur assez loin, plus ou moins lointain, je ne sais plus, d'apporter un message d'un point A à un point B. Et puis dans le premier, elle se retrouve embarquée dans une histoire par rapport à ce qu'elle transporte, etc. Donc, là on nous annonce la suite.
Là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu de parcours, au sens où on peut avoir une arme de temps en temps, mais vraiment c'est pas prévu pour ça. Et à la limite, l'arme, on l'a deux secondes et puis on la jette. C'est complètement basé sur le parcours, beaucoup plus que Assassin's Creed où c'est bon, le parcours c'est une partie hyper importante du jeu, mais c'est pas que ça. Là, c'est vraiment la sensation de faire du parcours simulé, quoi. C'est première personne, on voit ses bras et ses pieds, on court sur les murs, enfin c'est assez incroyable. Et je l'avais beaucoup aimé, et j'attends, il n'était pas sûr qu'il y aurait un 2, et visiblement il va y en avoir un, donc. Mais et je viens de regarder, visiblement c'est peut-être pour 2016 plutôt que 2015, donc bon, peut-être qu'on a un petit peu, on est un petit peu ambitieux là.
Et ils avaient annoncé aussi une compatibilité Morpheus et Oculus, non ?
C'est ça, j'ai pas vu.
Il me semble avoir vu.
C'est possible.
Traîner une
ça
info,
serait un jeu tout à fait adapté à ça, mais par contre, bonjour.
Oui, complètement.
Bonjour le vomi. Tu parlais de vomi tout à l'heure.
je pense que oui. Pour ceux qui ont le vertige, etc. Et à droite, à gauche. Ouais.
Et donc, il sera sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est vraiment cette année, ça sera les vrais débuts de la next gen en tant que, enfin, la next gen va prendre le dessus, je pense. Là, on y est, quoi.
Va avoir son statut de current gen.
C'est ça. Rainbow Six Siege, bon, un jeu de Tom Clancy. Rainbow Six, c'est une série un petit peu légendaire, simulation militaire, qui a eu des errements un petit peu hasardeux ces dernières années. Celui-ci a l'air pas mal. Bon, c'est un Rainbow Six classique. Pour ceux qui aiment, c'est un petit peu tous ces jeux-là dont je parle, Quantum Break, Mirror's Edge, Rainbow Six et Crackdown, dont je parle ensuite. C'est un peu des jeux qui sont attendus par ceux qui les attendent, en fait. Crackdown, un jeu qui avait fait les beaux jours de la Xbox 360, un jeu en monde ouvert qui est gardé avec un souvenir ému chez beaucoup. Et le trailer de la version 2015 est incroyable. C'est genre, il fait dans le trailer, on a une mission où on, c'est, je sais pas si c'est une cinématique complètement hors du jeu ou si ça se passe un petit peu comme ça en jeu, on va planter une bombe dans un immeuble pour pouvoir le faire exploser, pour qu'il tombe sur un autre immeuble où la sécurité est trop importante et qu'on puisse rentrer dans cet autre immeuble pour pouvoir exploser le méchant qui est dedans. Enfin, c'est le truc complètement invraisemblable. Voilà, c'est Crackdown. un mot à dire sur Rainbow Six Siege. Crackdown, c'est Xbox uniquement, hein, bien sûr.
Mais... moi, c'est typiquement le genre de jeu qui m'intéresserait plus qu'un Battlefield, parce que justement, il y a une matière derrière, en fait.
Tu parles de Rainbow Six ou
ouais, Crackdown? Rainbow Six, parce qu'il y a une narration solide, il y a ce genre de choses.
Oui, c'est vrai que Rainbow Six, généralement, il est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Ouais. Enfin, non pas enfin, mais pour le dernier des jeux, bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je devrais le mettre dans les gros jeux que tout le monde attend. Non, peut-être pas, parce qu'il était tellement seulement avec un trailer, c'est The Division de Ubisoft, qui était un jeu qui a été présenté il y a un an, il y a plus d'un an même, à l'E3, avec des images mais incroyables. Là aussi, c'est un Tom Clancy, et c'était tellement beau que, à la limite, on pouvait pas y croire. Moi, j'avoue que depuis que j'ai vu Assassin's Creed Unity, eh ben maintenant j'y crois. Je pense que ça va être aussi beau que ça. The Division, c'est vraiment un jeu futur post-apocalyptique. On a des factions qui doivent se battre pour récupérer des ressources. Enfin, c'est en FPS, hein, donc on se bat en équipe, multijoueur très important. On sait pas exactement ce que c'est. Ça avait des relents de MMORPG, mais en même temps, on pense pas que ça sera vraiment pas un
TPS.
MMO. Ah, c'est peut-être un TPS, oui, pardon, t'as raison. Et puis on pouvait jouer avec des tablettes pour jouer des drones. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en ai pas parlé pour Assassin's Creed Unity. L'app compagnon pour Assassin's Creed, aucun intérêt. Le multijoueur est sympa d'ailleurs, mais ils ont fait tellement de choses dans Assassin's Creed, je comprends qu'ils aient pas réussi à tout faire. Multijoueur, simple joueur, avec plein de trucs, app compagnon, machin, enfin c'est d'une complexité, c'est une cathédrale ce truc. Bref, app compagnon, à mon avis, c'est la tendance de l'année dernière qui va être vite oubliée parce que ça n'a aucun intérêt. Vous savez, c'était à l'époque où on se disait « Ah ouais, les tablettes, c'est le futur, tout le monde est sur la tablette, quand tu es en train de regarder la télé, il faut absolument avoir un truc sur tablette. » En fait, ça sert à rien, c'est inintéressant, et The Division peut-être, mais... Bon, tu y crois, toi ? Enfin, tu penses que ça sera intéressant, The Division ? On n'avait pas vu beaucoup de mécaniques internes sérieuses de gameplay. On ne sait pas comment ça se passera concrètement, mais...
Non, voilà, ça a l'air intriguant. Ça a l'air de vouloir m'emmener dans quelque chose qui me plaît assez, là, ce futur post-apocalyptique ou post-quelque chose. Et de ce que j'en ai vu, j'avais envie de prendre la manette, mais encore... Parce que justement, c'est pas un rythme effréné. Il a l'air de prendre le temps de poser les choses, de poser quelque chose en tout cas.
Mmh. C'est vrai qu'il y a une ambiance effectivement. Donc bon, ensuite on verra. C'est prévu pour PlayStation 4, Xbox et Windows. C'est un jeu dont je me dis que je serais pas. Il y en a plein dont je me dis que je serais pas surpris s'ils étaient décalés en 2016. Celui-là en fait partie. Street Fighter V, bon, pas peu de choses à dire. Street Fighter V, c'est 2015 ouais. Selon certains. Moi, je tablerais plutôt pour 2016. Et ensuite, on rentre dans les gros jeux qui sont attendus par les fans là aussi. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Bon. Entre parenthèses, Street oui. Fighter V, uniquement sur PlayStation 4. On avait parlé de cette exclusivité. Metal Gear Solid 5 qui sortira sur toutes les consoles. Là, pour le coup, on a l'ancienne génération aussi. Bon, Metal Gear Solid, ouais. Comme je l'avais dit, c'est peut-être celui-là où je vais me dire, je vais réessayer de m'immerger dans Metal Gear. Je ne sais pas si tu es fan, toi.
C'est, oui, mais alors moi, je ne fais que les principaux. Tu vois, je fais le 1, le 2, le 3. D'accord. Je ne fais pas les petits qu'il y a eu à côté. Alors, parfois à tort, hein. Enfin, sans doute à tort, mais si, moi, j'ai réussi à ne pas me laisser décourager par le 2.
Donc, d'accord. Bon, effectivement, voilà, donc... il fallait du courage.
voilà, Final... mais le 4 m'avait beaucoup plu.
D'accord. Final Fantasy XV, lui aussi en 2015. Là aussi, un titre dont on a peu de choses à dire pour susciter les passions. Et là aussi, un titre où je me dis, ben, je vais peut-être tester encore un Final Fantasy, des jeux que j'avais délaissés il y a un moment. Je vais peut-être y revenir. Ouais. Je me dis qu'il faudrait que j'essaye le 12. Mais...
Bah, oui, apparemment le 12 est pas mal, mais le 13 m'avait laissé un goût oui. très très amer.
C'est le couloir pendant 6 heures avant que le jeu ne s'ouvre.
Oh là là. Ouais. Oh là. Non, mais même le jeu s'ouvre un moment sur une grande plaine, c'est tout. non, du coup j'ai peur, tu vois, parce que de ce que j'en avais vu de FF13, je me suis dit ouais, génial et tout. Je m'étais même acheté un vidéoprojecteur pour le exprès.
C'est vrai. Ouf,
HD, oui, je me suis dit allez, enfin, je devais me remonter le moral. Il y avait FF13, je me suis dit allez, je me prends un vidéo HD, voilà, exprès. Et donc j'étais très content parce que c'était magnifique, c'était en 1080p, c'était magnifique. Mais ouais, je me suis vite rendu compte que c'était un magnifique couloir.
Ouais. Bon, FF15, donc, ça sera a priori pas le cas, mais je comprends que tu sois méfiant.
Ouais.
Xbox One et PlayStation 4. Alors, les deux derniers, deux titres très attendus sur PlayStation 4, No Man's Sky et Uncharted 4, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Alors, No Man's Sky sera sur Windows aussi, mais sur console uniquement sur PlayStation 4. Uncharted 4 sera uniquement sur PlayStation 4. Donc, tous les deux en 2015, a priori plutôt vers les fêtes, en tout cas pour Uncharted 4. No Man's Sky, super concept, super intéressant, on en a suffisamment parlé, mais on est un petit peu inquiet pour le gameplay, moi en tout cas. On faut voir ce qu'on y fait finalement dans cet univers infini et incroyable. Uncharted ouais. 4, bon bah c'est la formule Uncharted. J'espère que ça sera une version réussie comme le 2, plutôt qu'une version un petit peu plus tiède, mais bien quand même comme le 3. Bon, on verra, il faudra juger sur pièce. Hein.
Moi, j'ai un petit bémol sur Uncharted 4 parce qu'ils ont fait passer pas mal d'images là il y a pas très longtemps, et notamment le rendu de Nathan Drake. Et effectivement, il a l'air plus réel, mais je sais pas si c'est un bien.
Ah oui, tu trouves que c'est trop réel ? C'est cette fameuse Uncanny Valley où quand les personnages deviennent si réels, mais pas tout à fait réels quand même, ça devient bizarre ?
Bah, ça devient... Je trouve qu'il perd de son Nathan Drake-isme.
Oui, c'est vrai qu'il est plus... Ouais.
Il est humain. Mm. Tu vois, là où sur The Last of Us, on avait un Joel hyper typé avec des rides qui étaient bien présentes, machin. On n'avait aucun doute, c'était un être humain, mais je ne suis pas sûr que tu trouves l'équivalent en être réel. Mm. Et du coup, ça te permet de faire passer certaines émotions. Voilà. Et là, je ne sais pas.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est un petit peu bizarre, effectivement. Ouais. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est comme toutes ces démos. C'est pas ça qu'on va regarder. C'est pas... Enfin, si, il y a beaucoup de scènes de cinématiques, donc on va le voir aussi. Mais bon, ouais. On verra si on s'y sera habitué une fois qu'on aura joué.
Oui.
Effectivement, aussi. Et puis No Man's Sky, qu'on attend tous avec impatience également. Et ça conclut donc la liste de nos gros jeux de 2015. Si jamais vous en avez, vous aussi, des jeux que vous voulez mentionner, n'hésitez pas à venir le faire sur le blog de l'émission, sur frenchspin.fr. Des jeux, peut-être, on n'a pas beaucoup parlé de jeux indépendants, hein, même si... No Man's Sky ou Mighty No. 9, ils en font partie. Mais s'il y a d'autres jeux que vous voulez évoquer, n'hésitez pas à venir le faire sur le blog. Laissez des commentaires. Dites-nous de quel jeu on a oublié. Et si vous avez des jeux que vous avez eu à Noël et que vous voulez nous en parler aussi, n'hésitez pas à le faire. Donc, toujours sur frenchspin.fr, le blog du rendez-vous jeu et d'autres émissions également. Avant de se quitter, je voudrais remercier très chaleureusement le camarade Jean et que tu nous dises évidemment où on peut te retrouver si on veut entendre un petit peu plus de tes conseils et de tes recommandations.
Alors, si vous voulez m'entendre un petit peu plus parler, alors je suis pas tout seul, je suis avec Arnaud et parfois Céline. On parle de jeux vidéo et de jeux parfois de plateau à faire pour les adultes ou parfois avec ses enfants. Les jeux de plateau, c'est toujours avec les enfants. Donc, ça se passe sur papaaquatujoues.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+, Papa à quoi tu joues, SoundCloud, iTunes...
Partout.
Je crois que j'ai rien oublié.
Pas voilà, à quoi partout. Tu joues. Alors, on ne sait pas à quoi il joue, mais on sait qu'il le fait partout, en tout cas.
Au voilà.
Super. Ben merci, Jean. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode festif.
Merci de m'avoir invité.
Et on se retrouve, nous, très vite pour un prochain épisode. Dans 15 jours, comme tous les épisodes. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Et bonne année encore.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.